entrée sans payer, l'émission mensuelle sur la gratuité et la culture libre. Et ça se passe où ? Radio Balade 101.8.
Magasin gratuit. Je prends ce que je veux et c'est gratuit. Voilà. C'est gratuit. C'est gratuit.
Anarchiste, c'est précisément celui qui conteste l'autorité qui dirige une société, le pouvoir de la société, littéralement. Anarché, donc refusant le commandement. C'est quelque chose qui pour moi est tout à fait fondamental. Je peux dire que toute ma pensée est une pensée anarchiste, même dans l'Église chrétienne, mais je refuse évidemment de faire partie d'une fédération anarchiste parce que ça me paraît contradictoire dans les termes. Un anarchiste, c'est forcément un individu. Ce n'est pas un mouvement. Et encore moins un groupement qui est conforme à une certaine doctrine. C'est toujours par rapport à une réalité politique existante ou sociale existante que l'on récuse ce pouvoir sur l'homme. Au nom de quoi ? Eh bien, au nom de simplement de ce que je pense que l'homme doit assumer lui-même sa vie et qu'il n'a pas à obéir à une doctrine.
Vous venez d'entendre Jacques Ellul qui nous parlait de sa conception de l'anarchisme et de la façon dont il se positionne par rapport à cette doctrine. Il développe cette idée de manière plus approfondie dans un ouvrage qui s'intitule « Anarchie et christianisme » et qui est paru en 1988 aux éditions de l'Atelier Libertaire. Donc comment Jacques Ellul s'y prend-il pour effectuer une connexion entre deux courants de pensée aussi différents ? Alors pourquoi différents ? D'abord parce qu'ils sont en soi plutôt de façon traditionnelle considérés comme antagonistes. Les anarchistes ont une vision plutôt négative, du moins certains courants de l'anarchisme pour être plus précis, ont une vision plutôt négative du christianisme et des religions en général, tandis qu'à l'inverse, la religion chrétienne peut sembler, toujours pareil dans certains courants du christianisme, peut sembler hostile à des formes d'anarchisme ou et réclamer au contraire, on va dire, défendre une certaine vision hiérarchique de la société. Donc, antagonistes en soi, et aussi parce qu'ils appartiennent à deux... Le pont paraît a priori délicat, dans la mesure où ils appartiennent à des champs considérés comme très différents. Du moins, dans la tradition de la science politique et de la théologie... en Occident. On doit, en effet, on peut admettre qu'il y aurait une distinction presque ontologique entre le fait religieux et le fait politique. Donc, qu'est-ce qui peut unir deux courants aussi différents ? Alors, Jacques Ellul, en fait, bon, d'une part, va s'atteler à montrer qu'il y a toute une dimension politique dans le christianisme originel. Et il va montrer également que l'anarchisme peut se déployer, peut se concevoir dans des formes qui sont très proches de celle du christianisme originel. Donc quelle est la trame commune, quelle est la dimension cachée, pour ainsi dire, qui relie selon lui anarchie et christianisme? Eh bien, Jacques Ellul la trouve dans le refus de l'institution. Alors évidemment, dans le refus de l'État, disons, on pourrait dire dans le refus de l'institué, pour reprendre le terme de Castoriadis. Donc, selon lui, l'anarchie et le christianisme ont cela en commun, tout au moins, répétons-le, le christianisme originel, ont cela en commun de s'opposer à des formes d'institution et de vouloir revenir à une forme qu'on pourrait presque appeler de infra-institutionnelle. Donc peut-être en raison de son rattachement à la religion protestante, Jacques Ellul considère qu'on peut arriver à une sorte de lien direct entre faire société, si l'on peut dire, sans passer par l'intermédiaire de l'État et sans passer par l'intermédiaire de la société technicienne. Donc c'est une problématique très très intéressante qui essaie de développer et qu'on va aborder dans un petit extrait que je me propose de vous lire et qui se penche de façon plus ciblée sur la dimension politique de l'anarchisme. Il faut radicalement refuser de participer au jeu politique qui ne peut rien changer d'important dans notre société. Celle-ci est beaucoup trop complexe, les intérêts et les appareils sont beaucoup trop intégrés les uns dans les autres pour que l'on puisse espérer modifier quoi que ce soit par la voie politique. Alors, faut-il renoncer à agir? C'est ce que l'on a sans cesse entendu quand on soutenait une thèse radicale, comme si le seul mode d'action pouvait être la politique. Je crois que l'anarchie implique d'abord l'objection de conscience à tout ce qui constitue notre société capitaliste ou socialiste dégénérée et impérialiste, également qu'elle soit bourgeoise ou communiste, blanche, jaune ou noire. Objection de conscience qui ne peut pas se limiter au service militaire, mais à toutes les contraintes et obligations imposées par notre société. Objection à l'impôt aussi bien qu'à la vaccination ou qu'à l'école obligatoire, etc. Bien entendu, je suis favorable à l'enseignement, mais à condition qu'il soit vraiment adapté aux enfants, d'une part, et qu'il ne soit pas obligatoire lorsque manifestement, l'enfant n'est pas fait pour apprendre des données intellectuelles. Il faut modeler la forme de l'enseignement sur les dons des enfants. Quant à la vaccination, je pense à un exemple remarquable. Un ami a décidé de procéder à un retour à la terre. Il a fait objection à l'obligation de vacciner tout son bétail contre la fièvre aphteuse, estimant qu'un bétail élevé avec soin et loin de tout autre troupeau n'a aucune raison d'attraper la fièvre aphteuse. Et c'est ici que les choses sont intéressantes. Il a été poursuivi par les services vétérinaires officiels et condamné à une amende. Il a alors porté l'affaire en justice et en appel, il a triomphalement été acquitté. Ceci est un très bon exemple de ce que l'on peut reprendre comme espace de liberté dans l'étouffoir de la réglementation actuelle. Mais il faut le vouloir et ne pas disperser son action. Attaquer sur un point et gagner en faisant reculer l'administration et la réglementation. Bien entendu, ce ne sont que de petites actions, mais si on en mène beaucoup, si on est vigilant, on peut arriver à faire reculer l'omniprésence de l'État. Compte tenu que la décentralisation a rendu la défense de la liberté beaucoup plus difficile. Car l'ennemi, ce n'est pas l'État central aujourd'hui, mais l'omnipotence et l'omniprésence de l'administration. Il faut donc tenter une objection contre tout, et bien sûr contre la police, ou le dérèglement du processus judiciaire. Il faut dévoiler les mensonges idéologiques des multiples pouvoirs, et en particulier montrer que la fameuse théorie de l'État de droit, dans laquelle se bercent les démocraties, est fausse de bout en bout. L'État ne respecte pas les règles qu'il se donne à lui-même. Et il faut être méfiant envers tous les cadeaux de l'État. Il faut toujours se rappeler que qui paie commande. Je pense à la remarquable entreprise que nous avions racontée en 1956 des clubs de prévention contre l'inadaptation de la jeunesse, dont la base était que ce ne sont pas les jeunes qui sont inadaptés, mais la société elle-même. Tant que ces clubs ont eu un multifinancement, avec quelques subventions aussi, bien sûr, ils ont remarquablement marché et ont eu un effet excellent. Non pas d'adaptation des jeunes à la société, mais d'aide pour les jeunes à former eux-mêmes leur personnalité et à transformer des activités destructrices, blousons noirs, drogués, etc., en activités constructrices et positives. Tout a changé quand le financement a été entièrement assuré par l'État et que celui-ci a cru inventer la prévention et a créé un Conseil National de la Prévention, ce qui a été catastrophique. Mais un point est très important à souligner, c'est que dans ces entreprises, il faut être plusieurs. Je pense à une action qui serait très importante, l'objection à l'impôt. Il est évident que si un contribuable décide de ne plus payer ses impôts, ou, autre cas, refuse de payer le pourcentage d'impôt correspondant aux dépenses militaires, cela ne posera aucun problème. Il sera condamné, saisi, etc. Dans une entreprise de cet ordre, il faut être nombreux. Si 10 000, 20 000 contribuables s'entendent pour une telle action, cela met l'État dans une situation difficile, surtout si l'on peut en saisir les médias. Mais ceci implique une longue préparation, des campagnes de conférences, des tracts, etc. Plus immédiatement réalisable, mais exigeant toujours une pluralité de participants, c'est une école organisée par les parents, en marge de l'enseignement public, mais aussi de l'enseignement privé officiel. Simplement une école que des dizaines de parents décident d'organiser entre eux, certains assurant l'enseignement dans les branches qu'ils connaissent sous le couvert de quelques-uns ayant les titres universitaires permettant d'enseigner. Chaque fois que cela est possible, il faut s'organiser en marge des pouvoirs, politique, argent, administration, justice, etc. sur le plan purement individuel. Un exemple amusant et personnel. Pendant la guerre, nous étions réfugiés à la campagne. Après 2 ans, nous avions acquis la confiance et l'amitié de la population du village. Alors a commencé une curieuse histoire. Comme tous les habitants savaient que j'avais fait du droit, ils ont commencé à venir non seulement me consulter, mais demander que je tranche des conflits et des procès. J'ai ainsi rempli le rôle d'avocat, de juge de paix et même de notaire. Bien entendu, ces actes, gratuits, ne valaient rien aux yeux de la loi, mais ils valaient pleinement pour les intéressés. Et quand j'avais obtenu la signature de tous au bas d'un texte réglant un problème, un conflit, etc., tous considéraient ce texte comme aussi solide et ayant autorité que s'il avait été officiel. Bien entendu, tous ces modestes exemples d'actions marginales, récusant le pouvoir, ne doivent pas faire oublier la nécessité de la diffusion idéologique de la pensée anarchiste. Or, j'estime que notre époque y est favorable. Dans le vide absolu de la pensée politique actuelle, entre des libéraux qui se croient encore au XIXe siècle, des socialistes qui n'ont plus rien de n'importe quelle forme de socialisme, et des communistes simplement ridicules et qui n'arrivent pas à sortir du post-stalinisme, en face de syndicats qui n'ont plus qu'un intérêt, la défense corporatiste, dans ce grand vide, la pensée anarchiste a ses chances.
Ah, c'est pas grave.
Alors, quel message peut-on retenir des extraits que l'on a entendus de Jacques Ellul ? Eh bien, je dirais qu'il y en a deux principalement. Le premier, c'est d'abord une critique sans concession de toute forme de dogmatisme. Bon, on rattacherait volontiers à la position protestante de Jacques Ellul, enfin à ses influences protestantes. Critique qui est très intéressante dans le sens où elle ne se limite pas, on va dire, à un champ de réflexion, à un champ de pratique. Critique du dogmatisme, on voit bien, elle est peut-être même unificatrice dans sa comparaison entre l'anarchie et le christianisme. C'est vraiment cette idée de fond, cet élément fédérateur, donc le rejet du dogmatisme, qui est essentiel pour jeter une passerelle entre ces deux courants de pensée. Donc le deuxième aspect, c'est, comme on l'a vu, la critique de l'institution, la critique de l'État, du politique. Alors, d'une certaine forme d'action politique, puisqu'il est très intéressant de voir que Jacques Ellul ne renonce pas non plus à l'action politique, mais il la situe, donc comme je le disais tout à l'heure, dans une forme de dimension infra-institutionnelle. Donc c'est à travers un lien social, à travers des actions finalement qui ne sont pas nécessairement complexes, hein, ça peut être... ben voilà, le refus de la vaccination, ça peut être le développement d'interactions sociales directes. Donc c'est toute cette dimension d'une sorte de société qui se ferait spontanément, qui est vraiment pour lui à l'origine même des formes de liberté auxquelles l'homme, l'être humain peut aspirer, et également des formes de liberté de pensée, puisque les deux vont de pair. C'est aussi un point important. Dans sa logique, qui finalement est très systémique, il n'effectue pas de coupure, il ne fait pas une coupure entre disons le champ cognitif et le champ politique. Voilà, champ épistémique plutôt, on pourrait dire. Donc voilà, c'est de manière pratique, il nous invite aussi à réfléchir à toute forme de collaboration avec l'État. Et j'aime beaucoup ces exemples parce qu'ils sont très concrets et très clairement, ils nous montrent, par exemple, en ce qui concerne l'école, il ne tombe pas forcément dans les travers de l'instruction en famille, qui, dans un sens, aurait presque tendance à refuser des formes de sociabilité dans l'instruction. Mais il montre qu'on peut développer une école, des formes d'enseignement qui sont hors du champ institutionnel, donc qui sont hors anti-école, hein, telle qu'elle est construite à l'heure actuelle, mais qui ne sont pas non plus retranchés ou renfermés sur la cellule familiale. Autre point concernant le financement des actions indépendantes, autonomes par l'État, la position de Jacques Ellul est, à mon avis, même si elle n'est pas clairement exprimée, invite sans équivoque à rejeter toute forme de collaboration avec l'État, et notamment le financement des initiatives individuelles en contre l'État par l'État. Parce que là, on serait sinon dans un paradoxe qui est difficilement soluble. Et pourtant, ce paradoxe, il est assumé dans bon nombre d'associations qui vont tenir un discours et tenter d'asseoir leurs pratiques sur une idéologie originelle qui avait des aspects anti-institutionnels, anti-étatiques très marqués. Alors cette dimension institutionnelle, on la retrouve clairement dans le mouvement de la culture libre. Alors mouvement de la culture libre au sens strict, donc qui s'appuie sur les licences libres ou les, tout au moins les licences de libre diffusion. On la retrouve également dans un mouvement plus large de la culture libre, donc si on entend libre au sens large, on va dire. Hein. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans le mouvement de la culture libre, c'est que il s'appuie, peut-être là, on peut dire à la différence de Jacques Ellul, sur une vision très claire, très précise de ce qu'on entend par liberté, tout au moins dans le domaine des biens culturels. Mais à côté de ça, donc cet aspect-là est d'une certaine manière, on pourrait presque dire dogmatique, d'ailleurs on parle d'orthodoxie du libre, c'est intéressant à cet endroit d'aller sur la page de la Free Software Foundation, qui est un peu l'organisation qui a une forte influence sur la façon dont on conçoit le logiciel libre, dont on conçoit sur la philosophie du libre au sens large. Donc ce qui est très intéressant, c'est que en dehors de ces aspects, bon, qui sont tout de même loin d'être dogmatiques, dans la mesure où il y a beaucoup de licences différentes, par exemple, beaucoup de courants différents, il y a le courant de l'open source, par exemple, et le courant du libre au sens propre. On retrouve beaucoup de points communs avec cette idée d'anarchisme, notamment on va dire un refus de l'administratif, du bureaucratique, qui est mentionné par Jacques Ellul. Alors au point même que ça peut impacter sur le fonctionnement interne des projets. Donc c'est très marrant, par exemple, de voir que sur le projet Wikipédia, donc les personnes qui ont un peu plus de droits en matière éditorial ou voilà, par exemple des droits à supprimer le compte d'un utilisateur, sont appelés administrateurs et plus c'est bureaucrate. Donc, voilà, donc il y a d'une manière générale, et on le retrouve dans beaucoup de projets, un refus de l'administratif. Ce qui est complètement différent de ce qu'on peut observer d'une manière générale dans le milieu associatif, ou au contraire, je veux dire, les postes administratifs, les postes de pouvoir sont les plus recherchés. Là, on est vraiment dans la logique inverse. À savoir que, finalement, la partie bureaucratique d'une activité est refusée, quoi, n'est pas désirée. Et on essaie de la cantonner, de la limiter au strict minimum. Donc cet aspect-là me paraît très important dans la culture libre, et il se retrouve également dans la façon dont culture libre, dont beaucoup de projets de la culture libre se positionnent par rapport au financement public en général. Alors Bon, le positionnement n'est pas forcément hostile, mais simplement, il faut constater quand même, et ça c'est quelque chose de très clair, que tout le mouvement, quasiment l'intégralité, j'exagère peut-être un peu, mais une bonne partie du mouvement de la culture libre s'est construite hors des institutions. L'État, et d'une manière générale, les institutions n'y sont pour rien. Alors souvent, il y a eu des formes de, on va presque dire, de squat des institutions, de certains outils qui sont proposés, comme par exemple les serveurs informatiques, qui servaient à héberger des projets, mais globalement, on n'est pas... Globalement, il n'y a pas eu une volonté de la part des États, alors de l'administratif au sens large, de cautionner ce type de projet. Au contraire, je veux dire, la plupart des administrations ont opté pour des solutions propriétaires à l'origine. Voilà, et on peut pas, aujourd'hui, on peut pas, même s'il y a un certain revirement, une certaine... il y a le mouvement Open Data, il y a beaucoup de choses. L'État français aujourd'hui conseille un certain nombre de logiciels libres à l'usage, peut-être parce que aussi il a compris avec beaucoup de temps de retard qu'il n'aurait pas la main sur l'informatique propriétaire et qu'il était en train de se faire dépasser par d'autres pays. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas une volonté assumée, flagrante, de développer ce type d'initiative qui sont hors institution. Voilà. Bon, même s'il y a, comme je disais tout à l'heure, une sorte de socle institutionnel qui se construit d'ailleurs autour du droit d'auteur, donc tout ce qui est, puisque le copyleft est quelque part une dérivation du copyright, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que cet espace de liberté a été, même s'il s'appuie sur des bases légales, cet espace de liberté s'est construit, s'est protégé d'une certaine manière, contre le champ du logiciel propriétaire, qui constitue vraiment là pour le coup une forme... La mise en place d'un... Donc l'invasion, presque, on pourrait dire, de pratiques qui étaient libres, qui étaient spontanées par des intérêts marchands, par des intérêts étatiques. Et donc c'est sur cette base-là que le logiciel, que la culture libre s'est constituée. Alors, là, on a parlé principalement j'ai parlé principalement de la culture libre au sens strict, donc qui comprend notamment qui s'est vraiment construite à l'origine sur le logiciel libre, mais il y a tout un ensemble de pratiques, de champs d'actions qui sont aujourd'hui concernées. Je pense par exemple au matériel libre ou à l'internet libre aussi. Et on aura l'occasion d'y revenir dans d'autres émissions, mais tous ces champs-là sont également s'inscrivent dans cette même logique, à savoir la volonté de revenir à des échanges simples, conviviaux, qui sont, on pourrait dire, qui sont des nouveaux espaces de liberté, ou des espaces de liberté déjà existants, et c'est ça qui est important aussi d'ailleurs, c'est vraiment dans la mythologie du logiciel libre, cette idée qu'au départ on avait l'espace de liberté qui était donc la possibilité d'échanger, de consulter les codes, etc. Et au fur et à mesure que ça s'est marchandisé, arrivé, on va dire, la méga machine, et bouclage des codes, changement des pratiques. Voilà, on était sur des pratiques horizontales, spontanées, et progressivement, on évolue vers des pratiques propriétaires, fermées. Voilà, donc, le message de Jacques Ellul, c'est donc de rester indépendant, de rester aussi de penser à des formes de financement qui sont indépendantes de l'État et pourquoi pas du marché, hein, parce que le bénévolat, le volontariat, toutes ces choses qui sont proposées gratuitement constituent aussi des sources d'action, des ressources pour l'action tout au moins.
Gauntan geratu naiz, aizearen ziztua entzuten. Aizearen ziztua, urrunetik dator urrunera doa. Ahoz batzuek arri, eta berriz badoa. Paleta gozoak, zure lastanak bezalakoak. Aizearen ziztua, urrunetik dator urruneran doa. Bihurtzi ugari ekarri, eta berri badoa, badira auskirri gozoz, ifarreti dialgiak, gure mendi sokotan dekia. Besteak ego aize, aspun sukartua.
Maintenant de sujet, on va parler d'énergie libre. Fred, est-ce que tu peux nous introduire sur la question ?
Ah, alors, l'énergie libre, oui, est-ce que ça existe ? Bon, voilà, j'avais commencé une petite méditation sur une méditation sémiologique. La sémiologie, c'est l'étude des signes. Un mot est un signe, le mot libre est... Bon, voilà.
Des mots M-O-T-S. Hein,
voilà, est-ce qu'on peut coller le mot libre un peu partout, ou bien il y a des domaines... Alors, j'ai pensé au domaine de l'énergie, voilà. Est-ce que l'énergie libre existe ? Alors, quand on fait des petites recherches là-dessus, on tombe sur... des conspirationnistes.
Oui, certainement.
Voilà.
Mais pas
bon,
que.
Mais pas que, ouais, bon, pas que, non. Bah, bon, qu'est-ce que l'énergie ? L'énergie, c'est un principe physique qu'on mesure. L'unité de mesure, c'est le joule, en général, ou la calorie. Donc, on retrouve de l'énergie un peu partout, hein. L'être humain est consommateur d'énergie, hein. À la différence des végétaux qui peuvent se contenter de l'énergie solaire, nous on a besoin de consommer en fait des calories pour entretenir notre métabolisme. Donc une énergie libre, ça serait celle que on va dire on peut obtenir par la cueillette par exemple. Je pense ça, ou bon, la chasse éventuellement. dans le domaine après dans le domaine du déplacement si on regarde après les la consommation d'énergie aujourd'hui c'est complètement faramineux avec le pétrole le nucléaire les énergies renouvelables dans les pays occidentaux, on mesure ces quantités en millions de tonnes en mégatep. Le mégatep, c'est le million de tonnes d'équivalent pétrole. Vous avez aussi d'autres équivalents pour comparer les énergies entre eux, parce que le pétrole, l'électricité. L'électricité, c'est pas vraiment une énergie, même c'est un moyen de transporter l'énergie. Mais beaucoup d'énergie est transportée par l'électricité. Donc il y a une façon d'utiliser l'énergie, c'est le travail. Alors le travail,
le travail humain.
Le travail humain, ouais. Mm. Ou le travail physique, hein. Une machine travaille, elle va fournir un déplacement. Une voiture, on peut dire qu'elle travaille. Elle consomme de l'énergie. En même temps, elle fournit un travail. C'est celui de déplacer à telle vitesse sur tel parcours. Après, on pourra parler du travail libre.
Oui, tout à fait.
Ce sera une partie de l'énergie libre qui serait utilisée pour effectuer un travail. Mmh. Le travail, c'est quand même intéressant. C'est ce qui nous permet de vivre dans un certain confort.
La question après peut se poser si on distingue travail et activité au sens large, pour le coup. Est-ce qu'on se contente le travail n'est pas une manière dont la société canalise quelque part l'énergie ? La colle.
le travail. Est-ce qu'il peut y avoir du travail libre ? C'est un peu paradoxal parce que le travail, c'est un peu qu'il y a. Aujourd'hui, on va avoir une certaine contrainte.
Même par définition, si on prend l'étymologie du terme, il me semble que le travail contient en soi l'idée de
contrat. Ouais, c'était un instrument de torture.
Oui, de servage, quoi. Enfin.
On pourrait parler de contrat libre. On peut être rentré dans le domaine du droit. Avant, il y avait l'esclavage. On parlait même plus de travail. C'était vraiment l'exploitation poussée. À son comble, c'est le droit qui a fait abolir l'esclavage.
Oui. C'était un des outils, effectivement, pour.
Aujourd'hui, il y a beaucoup d'auteurs, je pense, de penseurs qui considèrent qu'on travaille trop. Distinguer le travail nécessaire et le travail superflu.
Et là ça rejoint, là je comprends bien effectivement comment ça rejoint l'idée d'énergie libre, parce que c'est aussi un des enjeux justement pour le coup de tout ce qui est relatif à la gratuité et la culture libre, c'est d'essayer de limiter ce travail superflu, quoi, de dire est-ce qu'on a besoin de travailler davantage, de consommer encore plus d'énergie alors qu'on a déjà ce qu'il faut, c'est un problème plus de gestion de l'énergie que de production, quoi.
Ouais, tout à fait, ouais. On constate ça d'ailleurs avec la production d'énergie brute. Le problème, c'est de la transporter, quoi. Il faut des pipelines, il faut des infrastructures très lourdes, des réseaux en haute tension.
Alors oui, il y a le transport, effectivement, donc ce qu'on pourrait appeler l'acheminement de l'énergie, mais il y a l'organisation sociale, quoi, autour de l'énergie, qui est souvent même pas vraiment remise en question. On est sur des modèles un peu archaïques de gestion de l'énergie. Enfin,
ouais. Il y a des progrès qui se font.
Ou très centralisés.
Ouais.
Comme par exemple, enfin, si on prend l'énergie électrique, enfin pour le coup c'est peut-être électrique est pas le bon mot, mais pardonnez mais mon ignorance en physique, mais les centrales nucléaires sont par définition centralisées. On peut pas mettre en place une centrale nucléaire dans un contexte d'énergie librement disponible, quoi. Librement produit, qu'on puisse produire librement plutôt.
Ouais, il y a peut-être une piste de réflexion dans ce domaine, parce que c'est vrai que c'est le problème de l'énergie nucléaire, un des problèmes de l'énergie nucléaire, c'est son rendement qui est assez faible, 30%, je crois. Ouais.
Pour une pollution qui est très élevée, par contre.
Ouais, c'est la pollution des déchets. Après, c'est la gestion des déchets. Et après, le transport. Comme tu dis, c'est très centralisé. Donc, il faut construire des grosses lignes à haute tension qui vont traverser les paysages. Les gens apprécient pas forcément. On pourrait imaginer des micro centrales nucléaires. Donc là, ça limiterait l'impact justement de ce réseau de distribution.
Ça me paraît compliqué quand même, non? Là, je sais pas, hein, je connais pas du tout le.
Ça c'est déjà. Après, c'est pareil compliqué vu que déjà, on va dire en France, le mal est déjà fait, quoi. Il faudrait démanteler les centrales pour en reconstruire des petites. Je vous dis.
Ouais, si on les démantèle, on les démantèle. Hein. On arrête après.
Non, mais pour le futur, on va dire, dans d'autres pays qui ont peut-être besoin d'électricité, il y a plein de pays qui n'ont pas l'électricité.
Oui.
Si on peut envisager le développement comme ça sur la planète. Il y a encore des. Faut pas négliger le nucléaire, parce que voilà, ça représente la moitié des ressources fossiles, grosso modo. Peut-être pas, peut-être pas autre, mais.
En tout cas,
ou un tiers peut-être.
Ce que j'entendais, je sais pas qu'il était possible effectivement de construire des mini centrales nucléaires.
C'est possible pour certaines applications comme les sous-marins, les bateaux.
Ce que j'entendais par là, c'est que j'imagine qu'une énergie libérée. Alors évidemment, tout dépend ce qu'on entend, ce qu'on met derrière ce terme, mais devrait pouvoir être appropriable par tout un chacun. Alors, par exemple, qu'on puisse fabriquer librement les générateurs d'énergie, si c'est des générateurs mécaniques, ça peut être aussi si c'est de l'énergie animale, on est dans un autre débat, mais donc il y a quand même cette idée. De faire en sorte que l'énergie puisse être produite par tout un chacun, quoi. Et éventuellement consommée, puisqu'on pourrait aussi imaginer des réseaux où le surplus de l'énergie est redistribué, le surplus de l'énergie qui n'est pas consommé est redistribué sur un réseau où tout le monde peut se servir librement. Et donc gratuitement, pourquoi pas.
Ouais, là, c'est. On rentre dans le piratage.
Ah mince. Enfin bon. C'est...
Ça existe hein, dans certains pays où les gens se branchent sur les câbles qui sont là et bon il y a souvent des coupures d'électricité.
Alors moi ça me questionne cette idée d'énergie libre sur un point précis, c'est-à-dire que bien souvent on a tendance à confondre le fait de dire c'est gratuit. Et c'est coûteux. Alors, c'est coûteux, c'est-à-dire, toute chose, souvent, on va dire, ouais, mais non, c'est pas gratuit parce que ça a un coût. Alors, bien souvent, j'imagine qu'on entend par là un coût énergétique, au sens large, hein, c'est-à-dire, je vais devoir travailler pour le faire. Et je pense que c'est bien à bien distinguer c'est payant. Enfin, voilà, il y a un coût économique, un coût social, là, pour le coup. Enfin, je veux dire qu'un coût qui ne prend sa dimension que dans un contexte social donné.
Ouais, le prix d'énergie, c'est ça. Le prix d'énergie, ouais, il est pas le même pour les types d'énergie. L'électricité, je sais plus combien ça coûte. le mégawattheure, j'avais noté ça, ouais. C'est 125 € le mégawattheure. Et le prix de l'électricité augmente. Mmh. Le gaz, c'est 42 mégawattheure. Et le bois, 36 mégawattheure. 36 € le mégawattheure. Mmh. Je vais dire 42 € pour le gaz, ouais. Mmh. Le prix de l'électricité augmente.
Bah, la question, c'est est-ce que justement on est obligé d'être dans un système avec un péage, quoi, avec une obligation de payer pour accéder à la consommation d'énergie, quoi. Enfin, d'énergie produite de manière mécanique, enfin avec des.
Ouais, je pense que dans le cas de l'électricité, enfin les prix sont un peu arbitraires ou ils ont été mal calculés. En tout cas, on n'a pas pris en compte les coûts de démantèlement, etc. On est en train de les reprendre au fur et à mesure. On ne sait pas trop ce que ça coûte finalement ou ce que ça va coûter. Je pense que oui, c'est arbitraire. On pourrait aussi bien dire c'est gratuit, servez-vous.
Non, mais alors on pourrait évidemment à l'heure actuelle. Ce qui est étonnant, c'est que on est face à une production d'énergie qui est quand même vraiment contrôlée par les pouvoirs publics, enfin par l'État peut-être. Ou bon, aujourd'hui, même si c'est des systèmes mixtes, on est quand même dans cette logique. Bien qu'on va de plus en plus vers une privatisation de la production d'énergie, mais finalement, on pourrait aussi imaginer un système de où chacun est producteur d'énergie et va redistribuer son surplus, quoi. D'autant plus que dans certains cas, on se retrouve avec du.
Ça existe, je crois, ça.
Oui, ça existe, mais voilà. Donc, alors, je pense pas que ça soit encore vraiment développé, mais à l'avenir, on pourrait imaginer des systèmes comme ça, autonomes, où, dans le fond, le surplus de l'énergie sera redistribué sur un réseau et on pourrait se servir gratuitement pour certains, quoi. Pour certains qui ont besoin. C'est à partir du moment où on a le. Bon. Après, bon, évidemment, il faut pouvoir faire soi-même ou être aidé éventuellement. C'est son propre système de production d'électricité.
Ouais, ça doit être. Je pense que c'est possible. Il y en a qui le font déjà, qui ont leur éolienne, leur panneau solaire. Je pense que pour une résidence, on peut arriver à l'autonomie assez facilement. Aujourd'hui, il suffit d'avoir un petit peu de bois et puis voilà, on peut se chauffer.
Oui, et puis il y a aussi quand même, moi ce qui me frappe, c'est que bon, bien que l'énergie soit peut-être aille en se raréfiant ou alors en tout cas qu'on est parti sur une logique d'accroître toujours de plus en plus la capacité énergétique, la production énergétique, bah finalement on est toujours dans une situation de pénurie, on a l'impression, ou alors on l'anticipe. C'est comme un système qui s'emballe et on n'arrive pas à voir la fin, quoi.
Ouais.
Peut-être qu'il faut remettre en question aussi la consommation énergétique, quoi. Enfin, arriver à des systèmes beaucoup plus sobres.
Ouais, c'est possible. Hein. Il suffit de regarder ce qui se font dans les autres pays. Il y a des pays où la consommation par tête d'habitants est quasiment nulle, et dans d'autres pays, comme les États-Unis, on consomme je sais pas combien de tonnes d'équivalent pétrole par individu.
Oui, bah oui.
Après, c'est ça, les pays qui produisent, ils consomment plus d'énergie aussi, forcément. Les pays qui... L'agriculture, ça consomme pas tellement d'énergie, si on s'en tient à la pioche et c'est plus de l'huile de coude qu'il faut. Alors on peut parler du travail libre alors maintenant.
Allez, c'est parti.
Alors le travail libre, ça serait différent du travail organisé par des autres. Dans le sens où bon bah la liberté c'est quand même quelque chose d'assez subjectif. Qu'on éprouve par soi-même, et le fait de ne pas avoir à subir la contrainte d'une hiérarchie en particulier d'un plan de travail, d'une utilisation de son corps, quoi, en fait, hein, quand on vend son travail, on vend un peu son corps, hein. C'est quelque chose comme ça. Donc, le travail libre serait celui où les modalités seraient, disons, partage, disons, négociées, on va dire, lors d'un contrat. Ouais. Où il n'y aurait pas de... Il n'y aurait pas de marché de travail, il n'y aurait pas de, de pression de part et d'autre, on va dire.
Donc on reviendrait juste à une négociation entre deux personnes, c'est ça l'idée?
Ouais, c'est ça, ouais.
Enfin,
ouais,
ou entre deux et plusieurs, pourquoi pas.
Ou entre deux et plusieurs, ouais. Je sais qu'il y a des tentatives de réalisation de contrats libres. J'ai vu ça. Après, je sais pas ce que ça donne dans la vie d'aujourd'hui. Il faudrait creuser ça. Alors, une forme de travail sur lequel on pourrait se pencher, c'est le travail artistique. Et alors là, voilà, il y a la notion d'artiste libre. Donc l'artiste libre, c'est celui qui va faire des œuvres uniques.
Tu peux développer ?
Oui, et il va faire des œuvres uniques. Il ne veut pas pouvoir faire de série. Donc il va pouvoir vendre une seule, s'il vend son art, il va pouvoir vendre qu'une seule copie.
Et en quoi ça serait plus libre que voilà qu'Andy Warhol, allez, qui pour le coup faisait de l'art en série. Enfin.
Ouais, ouais. En quoi ça serait plus libre Ouais, c'est une bonne question à creuser. Alors il y a un élément à prendre en compte à mon avis, c'est que pour moi l'art, ce qui est artistique, n'est pas vendable. Que depuis, on va dire, depuis Dali et Picasso, ce qui est vendable n'est pas d'art, et ce qui est l'art n'est pas vendable. Donc, pour moi, un artiste libre, le domaine de l'art libre, ça va être le graffiti. Voilà, disons, une démarche...
hors marché, alors.
Ouais, hors marché, ouais.
Quelque chose.
Des marches spontanées.
Mais quel est le rapport avec l'unicité de l'œuvre d'art? Parce que, du coup.
L'unicité de l'œuvre d'art?
Ouais. On peut imaginer un bien unique sur lequel on va mettre en place des droits d'usage et ensuite on va. Enfin, un artiste. L'artiste... En général, c'est ce qui se passe d'ailleurs. Il met en place un système de protection. Des droits d'usage de son œuvre d'art et puis
ouais 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 bah tout à fait ça existe, c'est la licence art libre, non?
Alors précisément en fait la licence art libre c'est une extension des licences libres qui au départ était destinée au logiciel libre. Alors la particularité c'est qu'en fait ça se base sur le droit d'auteur. Mais ça inverse la finalité du droit d'auteur en permettant justement de modifier. Enfin, ça inverse la finalité du copyright, on va dire.
Ouais, ce qu'ils appellent le copyleft, ouais.
Voilà, donc c'est le copy. Alors, bon, copyleft, c'est une définition bien précise, mais c'est à peu près dans cette idée-là. Donc, l'auteur d'une œuvre d'art va autoriser. Donc ceux qui vont l'utiliser, il va autoriser la libre utilisation, modification et redistribution de son œuvre d'art, voire même la commercialisation.
Ouais. Voilà.
Alors ça dépend. Il y a des licences qui sont plus ou moins restrictives sur les droits qui sont.
Mais son œuvre, en fait, il la donne. Donc il la vend pas.
Il peut vendre l'œuvre en tant que telle. Par contre, les droits intellectuels, immatériels, ouais, quoi, qui sont rattachés à l'œuvre, sont
donc ça va être forcément une œuvre unique.
Oui, 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 oui.
Donc ouais, ça correspond bien.
Donc, oui, tout à fait. Mais alors, c'est-à-dire, du coup, la rémunération pour l'artiste peut se faire via, par exemple, la vente d'un support matériel. Alors, ça peut être Prenons par, ça peut être par exemple un DVD, un CD, mais une fois qu'on a acquis le DVD et le CD, on peut librement modifier et redistribuer ce qu'il y a dessus. D'accord. Alors toutes les licences ne permettent pas autant de droits, notamment certaines licences Creative Commons imposent des restrictions sur, par exemple, le droit à la modification, le droit à la redistribution. Et donc ça a forgé une... Est-ce qu'on peut parler d'économie ? Oui, une économie, mais une économie autour de l'art, hein. Bien qu'elle reste quand même relativement marginale, faut dire ce qui est.
Ouais.
Mais il y a un modèle économique derrière, quoi, qui reste aussi à inventer en partie, hein.
Ouais, je l'imagine, ouais. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus
sur l'art libre,
sur l'art libre,
il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais après, ce qui est, je pense que ce qui est intéressant par rapport à l'idée de cette énergie libre, comme je disais tout à l'heure, c'est on peut effectivement la voir comme un coût énergétique. Si on voit la production d'une œuvre d'art, par exemple, si on se focalise sur le coût énergétique.
Ouais.
Bah là, il y a forcément un coût énergétique. Je veux dire, effectivement, rien n'est gratuit. On peut comprendre cette expression dans le sens où tout consomme de l'énergie, toute action. Quoi.
Ouais, voilà, ouais. Toute action consomme de l'énergie. Enfin, ouais.
Tout travail, peut-être même, toute activité.
Toute activité a un coût. Il faut savoir lequel et être prêt à le payer.
Ouais, tout à fait. Ouais. Mais ça n'est pas nécessairement. Il y a une correspondance entre ces deux domaines conceptuels, celui de l'énergie et celui de la dépense monétaire, qui peut être source de confusion par moment. Voilà, c'est ce que je remarque en tout cas en pratique. Alors, et que il n'y a pas nécessairement finalement une adéquation entre le coût énergétique et le coût économique. Mmh.
D'accord. J'espère que ça vous aura éclairci
ou embrouillé. Eh bien, on va arrêter l'émission et maintenant on passe à un morceau de TRESH de l'album Hip Hop Therapy qui vient de la plateforme Dogmasic et qui s'appelle Antifacho. À la prochaine, à bientôt.
À bientôt.
Ok. Terreur SH, anti-facho, hip-hop thérapie 2010. Quand je vois que ces cons ont osé faire de la propagande dans ma propre boîte aux lettres. Mort aux vaches et mort aux fachos. Après Le Pen, faut pas lâcher Sarko. Et que la CIA et le gouvernement qui me liront aillent se faire mettre bien profond. Libre penseur, anti-censeur, je viens faire l'apologie de la rime contre le racisme et l'anti-islam qu'il signe. J'ai pas la haine, j'ai la rage, trop c'est trop d'outrage. La goutte d'eau fait déborder le vase, marre de nager dans la vase. Ma plume est ta mère, comme jadis fut celle de ministère amer. Ou le vénère, nique ta mère. Je suis ce grand blanc en voie de disparition, classique mais flippant comme les dents de la mer. Majeur en l'air et verbe haut, ma voix, mon texte résonneront dans le cœur et les cerveaux. Le niveau est à la hauteur de la connerie qui déblatère. Merde, j'essaie, mais dur de contenir ma colère. Immense comme le tsunami, sens-tu la vague qui se lève, qui se lève. Comme Zola, j'accuse les dents serrées. Comme Camus dans la peste, la rage donc la bave aux lèvres. J'ai toujours été au front contre l'affront national. J'suis français à l'Afrique au cœur, tatoué normal. Tandis qu'un sang impur irrigue leur drapeau. Le stade souliganise car la haine est dense. Comme la coque et le reste, le diable mène sa danse. Tranquillement, j'te parle de lutte, j'te parle de paix. Avec mes écrits, mes cris, mes amis, ma bannière est bien levée. Bien décidé à marquer les esprits et me hisser au sommet du hip-hop rap français. J'brille comme l'école du micro d'argent. L'industrie te donne un disque d'or en argent, tout en te broyant pour mieux en lancer d'autres et gagner encore plus d'argent. La musique et les vrais savent, c'est comme une banque qui te fait un prêt sur ce que tu crées. En bref, c'est une argence d'argent, une arnaque monumentale, une manière comme une note de stériliser ton mental. Demande à Fab et Fefe et tous ceux qui sont revenus. La carotte ne rend pas aimable quand elle se confond avec un gros code dans le cul. Ah. Ok, ah. Certes, je vais heurter, provoquer, choquer, mais en vrai, je suis pas là pour faire de la dentelle ni de la soupe, mais du vrai hip-hop français. J'ai commencé en 9-6 frérot. J'ai compris que la vie était un jeu de chaise. Donc je reste debout comme je le peux. Ne mets à genoux que devant Dieu quand je prie pour tenir le coup. Ma rime t'a convaincu, ça y est. Les faux MC en perdent leur coup. Tomber, un point c'est tout. Mon art n'est pas à vendre. Je suis un soldat du hip-hop, pas décidé à me rendre. Comme Kazé, je t'invite à bien écrire avant de parler. Comme Ekoué, mon rap est une rumeur tenace qui jamais ne s'efface, car ma force est tenace. Et le restera tant qu'ils parleront-nous comme des singes en parlant de classe ou de race. Qui commence par se regarder dans la glace. Mon sourire se fige et mon sang se glace. Petit à petit je fais mon trou, car les jours ici sont de plus en plus courts. Je bosse, car y'a que comme ça que je ferai ma place. J'aurais voulu être un artiste, mais j'ai choisi d'être un homme à la place.